Voilà, je me suis intéressé et je m'intéresse toujours du reste, au type de relation que peut avoir un son avec une image. Et j'ai dégagé trois domaines qui sont celui du temps, celui du sens et ce que j'appelle le connu, qui n'est pas un terme tout à fait adéquat. J'en ai pas de meilleur pour le moment. Peut-être que vous m'en suggérerez un plus pertinent. Disons qu'il se réfère au contexte socio-culturel du spectateur. Il est très rare, à moins qu'il s'agisse d'un film abstrait, qu'une image représente pour vous des choses inconnues. Bon, ça peut représenter un paysage inconnu ou une ville inconnue, mais dans tous les cas, c'est une image dans laquelle il y a des objets qui, pour vous, sont, je dirais, synchrones avec votre contexte culturel. Donc, c'est ce domaine-là que j'appelle connu, et donc connu ou inconnu. Et donc, ces trois domaines qui sont finalement celui de la correspondance, de la connivence, de la coïncidence entre l'image et le son, vont se combiner d'une certaine façon en oui ou non. Bon, quand on a deux états, oui ou non, et trois domaines, il y a huit possibilités, c'est-à-dire 2 puissance 3, et donc on a ce tableau qui représente toutes les combinaisons possibles, donc de coïncidence dans le temps, de coïncidence avec le sens et de coïncidence, disons, avec votre culture. Alors, naturellement, je vais essayer de vous donner quelques exemples de chacune des formules. La façon dont on disposait le tableau, alors c'est très simple, coïncidence avec le temps, oui, avec le sens, oui, avec le connu, enfin, ou le culturel, oui, non, oui, non, oui, non, non, etc. Hein. Et donc ça donne huit possibilités de rapport entre l'image et un son sur justement le plan de la coïncidence. Et on observera que toute la partie que j'ai entourée en pointillés verts se distingue du reste du tableau. D'abord, c'est facile à voir parce que là, c'est trois fois oui et là, c'est trois fois non. Et qu'elle retrouve un petit peu le schéma dont j'avais parlé le premier jour, je crois, c'est-à-dire ce triangle de cette épaisseur sémantique variable allant de la parole à l'élément musical en passant par l'univers intermédiaire du bruit. Alors, effectivement, si nous prenons par exemple la première ligne, l'événement sonore est synchrone avec l'image. L'événement sonore a un sens qui est synchrone avec l'image, c'est-à-dire que finalement le son qu'on entend correspond à l'image que l'on voit et ce son est connu, donc fait partie n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Bon. C'est naturellement l'attitude la plus simple, la plus primaire, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est aussi bien, je pose une bouteille sur la table, j'entends le bruit de la bouteille, ou c'est le présentateur du journal télévisé. Hein. Bon, c'est vraiment l'état primaire de la relation image-son. Bon. Ici, déjà, deuxième ligne, c'est synchrone avec l'image, c'est-à-dire que quelque chose qu'on pose correspondra à un choc, enfin, c'est synchrone, quoi. C'est synchrone avec du point de vue du sens, c'est-à-dire que le son va correspondre à l'image, mais c'est un son inconnu, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à accrocher à quelque chose. Je pense par exemple que ça pourrait être, j'ai trouvé des exemples par rapport au film que nous travaillons, ça pourrait être, vous savez, ce bruit d'objet qui tombe sur cette vieille épinette dans le grenier, qui est déjà un son thématique, qui est entendu bien avant que l'on voit cette image. Et ben c'est effectivement un son que l'on va connaître, que vous allez reconnaître à un moment donné du film, mais qui, dans les premiers instants où vous l'entendez, ne vous est pas connu. Si, alors vous voyez, on est déjà là, dans toute cette partie-là, on s'approche d'un son qui n'est plus relié à la réalité et qui commence à glisser vers la notion thématique, vers la notion formelle. Si par exemple je prends la troisième ligne, c'est-à-dire coïncidence dans le temps, mais pas de coïncidence dans le sens, et néanmoins sont connus. Nous ne sommes pas encore arrivés là, je désespère d'y arriver avec le temps qui nous est imparti, mais vous vous souvenez, dans la projection du film, à un moment donné, Trintignant rentre dans la pharmacie et feuillette un codex, voilà, c'est ça, hein, enfin un gros codex volontairement un petit peu caricaturé. Et dans ce codex, il n'y a pas du tout d'indication pharmaceutique, mais des images du film, soit antérieures, soit postérieures, qu'on n'a pas encore vues. Et le retournement chaque fois qu'il tourne une page, on entend une sorte de grincement de porte, comme s'il s'agissait d'une porte qu'on ouvre. Et d'ailleurs, ce son est en relation précisément avec toutes ces portes qu'on ouvre au début du film. Alors, c'est bien synchrone, c'est-à-dire que ça correspond au geste. C'est pas synchrone avec le sens, parce que jamais une feuille de livre n'a fait ce bruit-là. Et néanmoins, c'est un son reconnaissable. Bon. Et donc, il y a déjà cette espèce de petit décalage du point de vue de la signification. Si je prends par exemple la quatrième ligne, c'est ça, c'est toujours synchrone avec le geste, avec l'image, ça ne l'est plus avec le sens, et ça ne l'est plus en ce qui concerne la reconnaissance sur le plan culturel. Eh bien, je prendrai un exemple que d'ailleurs nous allons voir, puisque c'est la première séquence que nous allons étudier maintenant. Quand après que l'aubergiste ait dit deuxième couloir, troisième porte à droite, etc., et que commence un espèce de trajet labyrinthique, ce trajet se termine par Trintignant qui rentre dans une chambre après avoir fermé la porte, allumé la lumière, et s'appuie sur un mur comme s'il était fatigué, et on entend à ce moment-là un petit bruit bizarre que on n'entend pas et qu'on réentendra de nouveau dans le grenier, qui est ce relevé des touches de cette vieille épinette qui fait boum, bruit un peu comme ça. Bon. Et donc là, effectivement, nous sommes bien synchrones avec l'image, puisque ce bruit est déclenché par le fait qu'il s'appuie sur quelque chose. On avait eu d'ailleurs, dans ce que nous avons vu hier, le même phénomène au moment, je l'avais signalé au passage, où une des femmes met sa main sur un cadre de tableau et où ça déclenche ce petit bruit. C'est-à-dire, synchrone, oui, non en ce qui concerne le synchronisme avec le sens, puisque jamais mettre une main sur un tableau n'a fait ce bruit-là, et en plus de ça, pas connu, en tous les cas, à cet endroit-là du film, sera connu plus tard. Alors là, alors vous voyez qu'on arrive, disons, dans un rapport de plus en plus distant entre le son et l'image. On est parti de la réalité, et puis peu à peu, on glisse vers cette notion qui, alors là, à partir du moment où il n'y a plus aucun synchronisme avec le temps, puisque c'est non partout, devient une relation essentiellement thématique, et qui est la relation principale dans l'homme qui ment. Il est tout de même, cette ligne-là est intéressante parce que il s'agit de quelque chose qui n'est pas synchrone avec le temps, d'accord, mais qui est synchrone avec le sens et qui est connu. C'est-à-dire que là, on pourrait parler précisément de son off au sens habituel qu'on donne à ce mot, bien que je sois personnellement, comme je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi cette porte est ouverte là. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est les portes de l'homme qui ment, ça, vous comprenez? Oui, tout va bien? Ça y est, tout est en ordre?
Il va fermer la porte, il s'enferme.
Il s'enferme? Ah bon, très bien. Bon, alors, oui, donc c'est là vraiment quelque chose qui ressemblerait à son off, mais qui pourrait être aussi un son thématique. Et c'est bien le cas du premier pivert que l'on entend dans le film. Je vous rappelle que la première fois qu'on l'entend, on est dans une forêt, on est donc dans une situation où on pourrait entendre naturellement ce pivert, mais par ailleurs, on va l'entendre, comme beaucoup d'autres sons de ce type, complètement délié du contexte du récit et simplement comme élément thématique, et c'est donc tout à fait cette situation-là. Quand on est non synchrone avec le temps, qu'on l'est avec le sens et qu'il s'agit d'un son non connu, alors, dans ces deux lignes-là, simplement ces deux termes sont inversés, on est complètement dans le domaine thématique, puisqu'il n'y a pas de synchronisme avec l'image, et que les seules choses qui changent, c'est qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas le son. Cette ligne-là en particulier, alors c'est pour ça que quand je dis que c'est synchrone avec le sens, à partir du moment où c'est thématique, c'est synchrone avec le sens N plus 1, si vous voulez. Hein, c'est, à un certain degré, c'est synchrone avec le sens. Alors que là, quand c'est non synchrone avec le sens, c'est deux endroits qui arrivent dans le film où Rob Grillet utilise le principe de la citation. Donc, quelque chose qui est extérieur au film et que donc je considère comme, non-sens par rapport au film, étant donné que c'est finalement comme une sorte de papier collé d'objets étrangers dans le film. Il s'agit de la séquence du linge qu'elle pend avec des pinces à linge, où il fait allusion à une jeune femme qui a été assassinée, etc., et qui est en fait l'histoire de son film précédent, dont il prend un morceau et qu'il intègre là, et effectivement on entend le son qui est une sorte de sonnerie de pont-levis qui dans les villes du nord là, de pont à bascule à Anvers ou dans ce type de ville et qui donc correspond effectivement à cette scène. Et plus tard, quand Trintignant se rendra dans le cimetière où il a rendez-vous avec la jeune sœur de Jean Robin, on entendra également une citation sonore de L'Immortel, qui était le film, son premier film. Donc c'est presque du domaine de la citation, et là on est vraiment très 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 loin, je veux dire le plus loin possible du sens. Et puis enfin la dernière ligne, ce qui est donc non partout, hein, eh bien, c'est le domaine précisément musical, c'est-à-dire puisque il n'y a pas d'abord il n'est pas connu, il n'a pas de sens par définition, et il n'est pas synchrone avec un événement d'image. Alors, vous voyez que si si j'ai encadré ceci, c'est que on finit par retrouver quelque chose qui s'apparente au premier schéma dont je vous avais parlé le premier jour, dans ce domaine, parole, bruit, musique, qui finalement est une représentation de plus ou moins de perception du sens et avec toujours cette zone de travail du bruit qui peut être près du sens ou loin du sens selon qu'elle est près de la parole ou qu'il est près de la musique. Et donc on retrouve à peu près ça. Voilà. Peut-être y a-t-il des... Alors vous aurez, pour ceux qui ont le document, vous aurez peut-être avec d'autres intitulés, mais vous aurez un développement de cette notion théorique qui me paraît importante dans le fait de maîtriser finalement ce rapport du sens et du son. Oui ? Alors, quand j'ai écrit et réalisé la partition sonore, je n'avais pas du tout fait de tableau. J'ai essayé par la suite de voir pourquoi j'avais fait ça. Et c'est plutôt une réflexion théorique a posteriori, mais pas du tout, je ne me suis pas du tout basé sur ce tableau pour faire ça. Mais j'ai essayé, si vous voulez, d'étudier les différences qu'il y avait. Finalement entre certaines relations, voilà, et donc les épaisseurs de sens qu'il y avait par rapport d'une relation par rapport à une autre, hein. Parce que je crois finalement quand on voit le film que par exemple la scène où on va arriver d'ailleurs où il se verse de l'eau, où il n'y a pas de carafe, où il laisse tomber, il fait comme ça et on fait un bruit de verre brisé, bon, ça c'est un certain type de relation. En revanche, quand on va entendre un bruit qui ne correspond pas à l'image que l'on voit, mais qui est synchrone, c'est un autre type. Bon, et d'essayer de un peu de répertorier ces différents types de relations. Hein. Voilà. Exactement. C'est tout à fait a posteriori. Et d'ailleurs, comme je vous le dis, et peut-être quand nous nous reverrons demain ou après-demain. Vous aurez des idées à me donner, c'est quelque chose qui est très mouvant pour moi, parce que je ne travaille jamais à partir de ce tableau, mais je vérifie plutôt, une fois que les choses sont faites, qu'elles peuvent être, si le concept théorique, lui, se vérifie. Il a été l'objet, d'ailleurs, de longues discussions théoriques avec des universitaires spécialistes de sémantique, et chacun son idée là-dessus. Bon, moi, pour moi, j'en suis là. Oui. C'est à la fois ça et ça. Oui, c'est à la fois ça et ça, et vous mettez l'accent, j'en ai honte, sur justement le domaine qui est le plus faible pour moi. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas la même chose, quelque chose qui est connu par apprentissage du film et quelque chose qui est connu culturellement. Hein. Le film, que ce soit celui-là ou Prénom Carmen que vous verrez demain du reste, sont des films à apprentissage. On apprend la règle du jeu du film à mesure qu'on le voit, hein. Et ça c'est une notion extrêmement importante. Grillez ? Oui. Oui, c'est bien pour ça que ça me paraît une notion pas tellement importante et qui est plutôt de l'ordre du private jokes que voilà. Hein, donc je n'y attache pas aucune importance. En revanche, je voudrais vous donner un exemple justement du connu ou inconnu culturellement qui, dans un autre film que j'ai fait, un des films d'animaux qui s'appelle Le Territoire des Autres. Que nous avons fait avant La Griffe et la Dent, que vous verrez demain ou après-demain, je crois. Il y avait un personnage dans ce film, si on peut parler de personnage, qui est un animal qui s'appelle le grand coq tétra, une espèce de je ne sais pas si vous connaissez les uns ou les autres cet animal, comme un faisan si vous voulez, mais qui est haut comme ça, qui est un animal très, très important, et qui est une sorte de personnage comme ça qui se balade dans le film de temps en temps. Bon. Et il a un cri, cet animal, extrêmement particulier, qui est une sorte de séquence sonore que on pourrait assimiler à ça commence par un aiguisage de couteau, comme ça, ça continue par comme un appareil de photo à répétition, vous savez, et puis un bouchon de champagne qui saute. Hein, voilà, c'est à peu près ça en gros. Hein. Et ça fait donc, mais tout ça lié naturellement, hein, chimérique. Hein. Et la première fois qu'on entend ça, puisque naturellement. Voilà, absolument, oui. Oui, c'est le tétralier ou le grand coq tétra.
Non, je crois que c'est le. Qui s'appelle
oui. Ça, enfin, on m'a toujours dit que c'était grand coq tétra. Enfin, je suis pas spécialiste. Et naturellement, c'est un thème sonore dans le film, un petit peu comme j'utilise cela, ce qui fait que on ne connaît ce son. Il ne devient culturel que quand il est justement en relation parfaitement synchrone avec l'animal qui a une espèce de longue quête amoureuse à la fin du film, et on voit par les mouvements de sa gorge que effectivement c'est le cri qui fait. Bon. Mais quand on l'entend au début, et ça a donné lieu à des délires critiques qui m'ont énormément amusé, des gens qui ont écrit ça dans les journaux, ce film était intéressant parce que c'était, ce qui est vrai d'ailleurs, cette analyse-là est vraie, que c'était un film sur le regard. Bon, et effectivement, c'est pour moi la chose la plus importante du film, c'est que c'est pas tellement les animaux qu'on montre, mais le travail de regard qu'ont eu les opérateurs, et finalement, on a l'impression, opérateurs et spectateurs, d'être cernés par ces, d'être nous en cage et eux spectateurs. Bon. Et, ajoutait-il, et ça c'était là où ça devient drôle, quelle astuce dans la bande sonore que d'avoir mis ces déclics d'appareils photo. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'était un dévoiement complet, finalement, et vous voyez à quel point, justement, cette relation du son avec le sens est importante, puisqu'elle a induit, finalement, un regard critique qui était intéressant, hein, mais à partir d'une base fausse. Hein? Bien, je vais mettre ça là-bas. Voilà. Alors, nous allons reprendre. Nous étions arrêtés à moins qu'il y ait quelque chose à dire de particulier. Non. Nous étions arrêtés hier à l'histoire de la photo animée. Je crois qu'on en a discuté suffisamment. Et nous allons passer maintenant à une scène un peu labyrinthique qui est déclenchée par la conversation avec l'aubergiste, savoir s'il y a des chambres, combien de chambres, etc. Et où il lance finalement un nouveau trajet fantasmatique de Trintignant. Alors je vais vous le faire entendre une fois et je vais dégager après quelques points. Vous nous envoyez alors 2802. Ah, il faut peut-être que je. Bah, je peux démarrer là. Hein. Ça y est.
J'étais en train de demander si vous aviez des chambres.
Combien?
Vous voulez dire combien d'argent?
Non, combien de chambres?
Ben, une, évidemment.
Ce n'est pas évident. Vous avez demandé des chambres. Vous n'avez qu'à monter. Troisième porte à gauche dans le couloir de droite au bout du palier au deuxième étage.
mettre au même endroit, s'il vous plaît. Ok. 2802. Alors, ce trajet fantasmatique, j'ai tenté là quelque chose que je vous mets tout de suite à l'aise, je ne trouve pas entièrement réussi. Mais je vous explique tout de même ce que j'ai voulu faire, parce que maintenant je crois que je le ferai autrement et que ça serait mieux, et qui est un dispositif vraiment essentiellement musical et quasiment directement inspiré. Par exemple, de l'interlude centrale de Loulou. C'est-à-dire une forme dans laquelle, à partir du moment où il s'est engagé dans le couloir, il y a un système sonore, puis une petite cellule composée de trois sons qui fait toum toum toum, comme ça. Bon. L'endroit dans cette espèce de cabane où il a retrouvé Jean Robin et il verse du vin ou je ne sais pas quoi. Bon. Puis de nouveau cette même cellule et le trajet avec Jean Robin qui le soutient comme ça jusqu'à ce qu'il arrive à la chambre et l'inverse de celui-là. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça s'entend ou ça ne s'entend pas. Je souhaiterais plutôt que ça. J'aimerais mieux que ça s'entende. Pour donner, si vous voulez, cette impression de tourner en rond, de labyrinthe, à partir donc d'un matériau sonore qui est le même, mais qui est présenté à l'envers. Ce que comme je connaissais mal Loulou à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, je n'avais pas vu à quel point Berg avait été beaucoup plus malin que moi. En ce sens, vous connaissez tous l'interlude de... Non ? Oui ? Oui ? Bon. Et vous savez donc que c'est une pièce dans laquelle il y a une rétrogradation à partir de motifs de vibraphone, et puis ça repart à l'envers. Mais ce qui est très fort dans l'interlude de Loulou, c'est que les groupes de timbres sont très différenciés, et que donc l'oreille reconnaît beaucoup mieux la rétrogradation du fait qu'on entend le groupe des cuivres comme ça, les bois comme ça, les cordes comme ça, et que donc on sent cette espèce de rétrogradation. En plus, comme c'est sur un motif de carte, ti-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, bon, c'est facilement reconnaissable. Bon, donc, en fait, je crois que malheureusement, ça n'est pas le cas là, mais c'était finalement mon idée était que comme on retrouvait cette même cellule, on devrait subir le même chemin. Bon, je crois que c'est pas. Mais alors néanmoins, je vais vous expliquer comment c'est fait en détail.
J'étais en train de demander si vous aviez des chambres.
Combien ?
Vous voulez dire combien d'argent ?
Non, combien de chambres ?
Ben, une, évidemment.
Ce n'est pas évident, vous avez demandé des chambres. Vous n'avez qu'à monter. Troisième porte à gauche dans le couloir de droite au bout du palier au deuxième étage.
Bon, alors là, comme élément, on a toujours cette trame qui indique... quel thème des trajets, en quelque sorte. Et puis, cette espèce de pas sur un sol un peu granuleux, mais qui a une particularité que vous avez certainement entendue. Ils sont à l'envers. Là, ils sont à l'envers. C'est-à-dire qu'on entend on entend les attaques après le machin. Comme ça, bon. Alors qu'on va entendre les mêmes pas dans la rétrogradation à l'endroit. Hein. C'est un petit peu à télo, peut-être, tout ça.
Cette trame qu'on entend juste au moment où il arrive dans ce couloir,
oui.
C'est pas la même que vous avez dit la dernière fois, ça correspondait au personnage du père et l'autre personnage.
Non, le personnage du père, non, on a entendu cette trame comme une sorte de pédale, si vous voulez, sous laquelle. sur laquelle, je veux dire, on l'entendait, ces très courts modules violoncelle et contrebasse, qui, eux, sont attachés au personnage. C'est d'ailleurs les seuls motifs musicaux, qui sont plutôt d'ailleurs des thématiques de timbre, c'est-à-dire de violoncelle ou très grave ou de contrebasse, qui soient liées à des personnages. C'est les seuls exemples. Hein. Alors, on a effectivement, à ce endroit-là, ce même type de trame, hein, plus ces choses de violoncelle. Alors, ici, donc, on a cette trame de trajet, plus les pas et différentes choses qui vont se greffer dessus. Ah, oui, ça va. Alors, c'est là où on a nos petits toum, hein, qui sont. Excusez-moi, je chante très mal, mais j'entends juste. qui sont donc ces deux pids suivis de quelque chose qui ressemble à une sorte de cymbale suspendue, hein, et qui donc indique la partie centrale, hein, qui est d'ailleurs où il y a cette espèce de pédale de moteur de tracteur qui est en dessous. Hein. Donc c'est, si vous voulez, voilà le premier trajet, et nous sommes là avec cette petite cellule de trois sons. Oui.
Est-ce que
ces coups, ces violons de feu, oui, et ils sont anecdotiques, je peux dire. C'est-à-dire qu'ils rappellent effectivement une situation de fugitivité, si je puis dire, hein, de personnes traquées et qui essayent d'échapper aux balles ennemies. Hein. Oui, oui, tout à fait. Branche écartée.
Précédant les coups de feu, quelque chose qu'à la première audition, qu'avant les coups de feu, on identifie mal.
Ah, attendez, alors on va revenir parce que je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Je les ai rapportés à une marche en forêt, une marche différente, à partir du moment des coups de feu.
Non, vous avez demandé des chambres. On avait commenté. Troisième porte à gauche dans le couloir de droite au bout du palier au deuxième étage.
C'est ça. Ah oui, alors ça, c'est les bruits de pas dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont effectivement les bruits de pas qu'on a entendus tout à fait au début du film, hein, mais qui sont à l'envers. C'est-à-dire que la bande passe à l'envers. Procédé dont je m'excuse auprès de mes amis de Sonus qui doivent trouver ces procédés débiles.
Non, en fait,
ce sont les seuls dont nous disposions à l'époque.
Et c'est le vrai rétrograde, parce que quand on parle de rétrograde d'une cellule musicale, il n'y a pas rétrograde de l'attaque.
Non, bien sûr. Mais rétrograde de l'attaque, d'abord, c'est une chose que je ne ferai plus du tout maintenant, parce que ça s'entend, enfin, ça fait. Cheap, quoi. Bon. En fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce que Berg a fait, c'est-à-dire une rétrogradation du matériau. Hein. Mais évidemment, un orchestre ne peut pas jouer à l'envers. Hein, donc c'est bien ça. En tout cas, c'est bien ces pas. Donc trame plus pas.
Hein.
Je comprends pas.
Pure spéculation.
Ah bon. Alors, on continue. Et pas continue. Petite cellule, pédale, moteur continue. Alors là, vous avez un exemple typique de ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire un événement synchrone, mais d'un son qui qui n'a pas de sens par rapport à ça et qui est inconnue. Hein, ça, c'est vraiment de... c'est vraiment typique. Vous avez une inversion de cette petite cellule qu'on a entendue tout à l'heure et qui est, où les trois sons sont disposés, sont interpellés, si vous voulez, comme pourrait l'être les sons d'une série, par exemple. Bon. Et on repart avec, cette fois-ci, les pas à l'endroit. Il y a d'autres sons en plus, hein, il y a toujours la trame, il y a les pas à l'endroit, et il y a cette espèce de grincement dont on a déjà parlé hier ou avant-hier, de métal sur pierre, sur granuleux, enfin sur sableux, qui intervient comme un son tout à fait thématique, quand on l'entend au début, et qui vient s'accrocher à l'image au moment où il commence à ouvrir les portes, parce que ça pourrait être le bruit de la porte, hein, comme s'il anticipait sur déjà son arrivée, avec, je vais reprendre un petit peu avant et aller jusqu'au bout, deux espèces de coda en quelque sorte. Il ferme la porte une première fois, puis il se revoit, on le revoit de nouveau dans l'escalier, et il referme seconde fois la porte, comme si c'était des petites codas mémoire de cette action d'un passé immédiat. J'ai l'impression que ça vous laisse la perspicacité la plus grande. Mais vous allez voir ce que je veux dire. Alors là, dans ce pivert donc, qui clôt ce petit îlot, finalement je me sers du pivert, parce que quand il se retourne vers nous, on a l'impression qu'il va de nouveau raconter son histoire. Hein, il est comme ça. Bon. Alors, le pivert, c'est une ellipse, il a raconté une histoire qu'on n'a pas entendue. hein, puisque c'est le signal qui en général nous annonce une de ces histoires, et ben cette fois-ci il n'y en a pas. Pas plus de... Pas plus que de... Voilà, exactement. Oui, oui, je pense qu'effectivement, on peut très bien le concevoir comme ça. Mais néanmoins, il y a toute une gradation dans tout le film sur la façon dont, disons, le point premier, c'est, on le voit, je vais vous raconter mon histoire. Bon, ça, c'est le truc tout à fait primaire. Bon. Et puis... plus on avance dans le film, il commence en disant je vais vous raconter. Oh puis non, bon, ça c'est déjà un point beaucoup plus avancé où on n'a pas d'histoire. Il veut raconter une histoire, mais pas d'histoire. Là, on a l'impression qu'il a le désir de raconter quelque chose et que ça ne va même pas jusqu'au fait d'ouvrir la bouche. Vous voyez. Mais c'est une possibilité. Hein. De toute façon, ce film génère l'essence qu'on veut bien lui affecter. Bien, nous allons passer à 3208, s'il vous plaît. Je vais peut-être prendre un tout petit peu avant. Oui, pour les casser, on a besoin de personne.
Peut-être avoir un autre logement. Ou bien je vais être obligé de partir.
Il faudrait savoir, il y a d'autres clients.
Mais l'hôtel est vide.
Mêlez-vous de vos affaires. On attend peut-être quelqu'un.
Ah, alors est-ce que ça, vous admettez ça comme un son chimérique ?
J'ai tellement été troublé par la porte qui s'est ouverte.
Mais il n'y a que des portes partout. On est dans un univers de portes. Bon, alors je refais.
Je vais être obligé de partir.
Il faudrait savoir, il y a d'autres clients.
Mais l'hôtel est vide.
Mêlez-vous de vos affaires. On attend peut-être quelqu'un.
Non, parce qu'on entend, aussi la chute de première attaque. Il y a deux enveloppes qu'on entend quand même.
Mm-hmm.
Ah, il y a eu le bruit de la poignée.
Tuilage, on peut dire que c'est un tuilage de...
Ouais. Pas chimérique.
Désolé.
Pas de chimère, alors personne ne veut. Ah. Ceux qui sont pour la chimère.
Thank you.
deux enveloppes plus bas. Moi, j'entends deux. Moi, j'entends deux attaques.
Vous entendez deux attaques?
Ah oui.
Oui.
Oui, devant le clocher, justement, oui. Oui, oui, oui. Non, non, mais ça, je suis entièrement d'accord du point de vue du point de vue du centre. Là, je me place sur un plan purement acoustique. Monsieur dit qu'il entend deux attaques, moi pas.
Comme ça commence, logiquement, avec la poignée de la porte et le bruit de l'autre, et le pas, le pied de l'autre qui se pose.
Oui.
J'ai essayé dessus la logique de la porte du pas, et puis ça c'est autre chose qui grève dessus.
Moi je crois qu'il y a un autre endroit avec l'attaque des portes, et ça continue avec
oui.
Les doigts. Là on entend une seule attaque et une seule...
Au début alors, là, quand il entre au château, là. Oui, c'est quand il entre au château.
Mais oui. Ici effectivement on entend l'attaque, et même la chute, on entend le tuilage, franchement on entend le tuilage.
Moi, j'entends pas une deuxième attaque. Non, mais de toute façon, un son de cloche, que vous mettiez l'attaque ou que vous la mettiez pas, ça change évidemment le son, mais à partir du moment où on entendrait, on aurait supprimé le choc et on attaquerait tout de suite la résonance, le fait d'attaquer la résonance fait attaque, de toute façon. Bon. Donc, en fait, les deux sons sont placés l'un sur l'autre et on ouvre le potentiomètre très rapidement sous la chute du premier. Mais donc, on ne peut pas entendre une attaque, parce que si vous montez un son comme ça, il n'y a pas d'attaque. Ou alors, il y a une attaque, mais qui a cette forme-là.
Hein? De toute façon.
J'aimerais avoir le point de vue de Sonus là-dessus. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut ne pas... vous pouvez fermer les yeux, c'est compliqué de... On peut enlever l'image? Bon. Alors, c'est facile à faire ou... Ça y est, bon. Alors, écoutons.
Je ne sais pas encore. Je vais peut-être avoir un autre logement. Ou bien je vais être obligé de partir.
Il faudrait savoir, il y a d'autres clients.
Mais l'hôtel est vide.
Mêlez-vous de vos affaires. On attend peut-être quelqu'un.
Vous avez sur un track le bruit de la porte. Bon, le bruit de la porte, c'est ça, avec plutôt, disons, une sorte de désinence. Hein, c'est plop, le clop, clop. Hein, bon, qui fait ça. Bon. Et sur l'autre track, il y a la cloche qui est montée en même temps, donc qui a son attaque très, très, très comme ça. Bon, qui va avoir sa résonance comme ça. Mais en fait, au mixage, ça c'est ouvert, ça c'est fermé au départ, et on remonte très rapidement après l'impact de la cloche. Hein? Bon. C'est pour ça que je ne vois pas comment on peut entendre deux attaques. Ah oui.
Pour moi, c'est tout à fait réaliste.
Ah ça, oui, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, vous avez raison, oui.
Donc pour moi, c'est pas du tout chimérique, ça.
C'est du connu, ça. Alors oui, c'est du culturel, effectivement.
Ça mettait en action la petite touche.
Oui, surtout d'ailleurs en Provence, où on les rideaux de bois devant, et puis bling, oui, exact. Oui.
Est-ce qu'ils ne sont pas trop dissemblables pour ne pas pouvoir créer une seule entité, peut-être ? Est-ce que la chimère est vraiment possible, hein, peut-être ?
Ah, vous pensez que, oui, ce serait la différence de nature. Oui, mais il y a une autre difficulté, c'est quand les sons sont trop près, sont trop de même nature, alors il n'y a pas du tout de, il n'y a plus de chimère du tout. Hein, c'est, ouais. Bon, on va poursuivre. Vous avez remis l'image, là ? Merci. Attendez, je vais revenir.
Je ne sais pas encore. Je vais peut-être avoir un autre logement.
Toujours un peu trop en arrière.
Ou bien je vais être obligé de partir.
Il faudrait savoir. Il y a d'autres clients.
Mais l'hôtel est vide.
Mêlez-vous de vos affaires. On attend peut-être quelqu'un.
Pardon ? Qui a parlé ? Oui ?
On entend les deux chutes de son à la fois. Par la cloche et par le dissonance.
Ben oui.
C'est ça qui fait que lui, il entend deux interfaces. Je sais de comprendre pourquoi.
Oui, c'est drôle parce que moi, pour moi, alors, c'est le type même du son chimérique. Ça. Non, c'est vrai. Oui, c'est pas.
Il y a un.
Ben oui, c'est bizarre. Comme quoi, vous avez vu, les intentions des créateurs n'ont pas toujours suivi. Bon, allez, on avance un petit peu. Même.
J'ai oublié quelque chose, avez-vous dit ?
Oui, monsieur.
En imperméable ? Est-ce que j'avais un imperméable ?
Non. Vous avez oublié de nous dire ce qui était arrivé au général.
Général ?
Mais le général...
Alors, vous voyez, là, c'est le seul endroit où il y ait, comme je crois que j'avais dit ça hier, un raccrochage sur le plan du texte, puisque cette histoire de général, c'est celle qu'elle a commencé dans la cour, et je dois à M. Marie, qui est là, d'avoir repéré ce dispositif. Je lui donc rends hommage. Alors, naturellement, ces sons de cloche, là, on a un exemple de relais par du musical du non musical, dans la mesure où on considère qu'une cloche, c'est du non musical. Bon. On est près d'un clocher, donc du point de vue du récit, si vous voulez, ce son n'a rien finalement d'anormal. Là où commence à être anormal, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un son de cloche quand on met une passe à linge. Bon, ça c'est déjà un premier dévoiement. Et par ailleurs, vous remarquerez que les hauteurs de ces cloches changent tout le temps, et en particulier changent dans des rapports pas forcément chromatiques, c'est-à-dire que c'est encore un dévoiement supplémentaire du bruit réel. Et puis, quand ces combinaisons seront complètement épuisées, à mon sens, alors peu à peu, par un système de pistes de cordes, de vibraphone, de lithophone, qui est un instrument que j'avais, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas, vous connaissez, bon, qui est incorporé là-dedans, puis finalement cette cloche se transforme et devient un petit nodule comme ça, musical, quand il monte dans le clocher.
Les casemates.
Mais quelle casemate ?
Je ne sais pas, moi. Ce n'est pas moi qui ai fait la guerre avec Monsieur Jean.
Mais la guerre. Mais c'était pas une guerre de fortification qu'on faisait. C'est à vous, ça ?
Ah non. Vous trouvez ça joli ? C'est à mademoiselle, mademoiselle Sylvia.
Ah, voilà, j'ai trouvé à qui vous me faites penser. Une fille qui avait la même voix, que j'ai connue il y a longtemps.
Ah oui, à la guerre?
Pourquoi pas à la guerre? Les femmes la faisaient aussi, cette guerre-là. Vous savez, Jean, il a bien connu la fille qui vous ressemblait. Elle s'appelait...
Toujours le même système, elle s'appelait... Hein, bon. Oui. Tout à fait, oui. Je vous remercie de dire ça. Je ne peux pas être plus flatté, parce qu'effectivement, c'est ça l'idée. Oui. Oui, c'est que c'est un acteur, le son, dans ce film. Alors c'est là où il y a la citation donc de France Europe Express, et d'ailleurs il va changer de voix.
C'est chez elle que se cachaient les agents de liaison qui arrivaient de la ville.
En arrière.
Pourquoi pas à la guerre? Les femmes la faisaient aussi, cette guerre-là. Vous savez, Jean, il a bien connu la fille qui vous ressemblait. Elle s'appelait Eva. C'est chez elle que se cachaient les agents de liaison qui arrivaient de la ville.
Et là, on est dans l'autre film.
Au début. Mais on a eu des doutes. Elle jouait peut-être le double jeu. Ou alors c'était des coïncidences bizarres. Un jour, en tout cas, on l'a retrouvée étranglée sur son lit.
Ça, c'est ce fameux signal du son masculin qui est contigu au son de cloche.
Écoutez, Maria, je ne peux plus supporter ces mensonges. J'ai quelque chose d'horrible à dire.
Mitophone.
Vous avez le droit de savoir la vérité.
Alors suivez-moi par ici.
Voici.
Voilà. Vous voyez comment on est progressivement passé de ces sons de cloche avec un dispositif instrumental très, très simple pour finalement arriver à faire un petit dispositif musical qui vient clôturer quelque chose qui n'était finalement que du bruit à l'origine. C'est ça, oui. Bon, je vais peut-être... passer un peu rapidement sur la suite.
Oh, que vous croyez, c'est un traître et un lâche.
On peut pas avoir l'image en même temps, que ça accélère. Non. Oui, si vous, avec le
truc. En réalité, j'en re... Moi, c'est pas.
Oui, parce que ça... Ah, le coup de main. Oui, ça va. Je vais peut-être juste au passage vous faire entendre justement la thématique de l'intendant et du père. C'est là où on les entend de mieux.
Et que voulez-vous faire contre des murs? Je me débats dans le noir et je me heurte à des murs de tous les côtés.
Là.
Mademoiselle Maria n'a plus de travail. Elle rêvasse toute seule dans les nuages.
C'est le père de Jean?
Non, ça c'est seulement Franz.
Qui est-ce?
On dit que c'est l'intendant. Il a toujours habité ici, vous savez.
On va remonter un tout petit peu, c'est un peu faible comme ça.
Ah! C'est Franz.
Alors, j'en profite de vous faire remarquer que, bon, là, on est, même si c'est à l'état élémentaire, devant du son musical. Bon. Là où la démarche est différente de la façon habituelle de travailler la musique dans les films, c'est que, bien évidemment, tous ces micro-modules sont montés par rapport au texte. Donc, ça veut dire qu'il y a un enregistrement où il y a un violoncelle qui fait zzz, bon, un autre où il fait deux notes, un autre, et tout ça est assemblé par rapport aux intervalles qu'il y a dans le texte, ce qui serait impossible à enregistrer de façon continue et donc entrelacée, entrelardée, comme ça dans le texte. Mais ça permet une beaucoup plus grande souplesse dans le jeu de ces petits motifs instrumentaux par rapport au texte qu'on entend. Vous voyez ce que je veux dire? Si on enregistre une minute de musique, bon, ben ça, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit sa valeur, ça tombera là où ça tombera. Hein. On peut commencer un bout, synchroniser au début, ou synchroniser à la fin, ou synchroniser au milieu, mais on a beaucoup moins de liberté dans le fait de placer comme ça une pierre entre une autre, et c'est ce qui permet donc de faire ce type de travail. Mais c'est beaucoup plus long.
Comme il a vieilli. Ce doit être le chagrin causé par tout cela.
Vous voyez par exemple ça.
Mais il n'a pas eu l'air de...
Comme il a vieilli. Puis... peut-être le chagrin, etc. Bon, tout ça, c'est très très contrôlé, là, et évidemment, du fait même de ce principe de travail.
Oui, vous avez remarqué? Il a même fait comme s'il ne me voyait pas. S'il ne savait pas qui je suis, il aurait demandé ce que je faisais là. Et voilà, vous partez.
Ça, en fait, c'est un motif de violoncelle, mais...
Vous m'abandonnez, vous aussi.
Mais non, mais j'ai du travail pour le déjeuner. Revenez cet après-midi. Je vous attendrai au cimetière.
Alors là, un point important aussi, c'est le silence total. C'est le seul endroit du film où, pendant une aussi longue durée, ça doit faire au moins 10 à 15 secondes, il n'y a rien du tout, parce que c'est la première, finalement, le premier fantasme presque réel des deux doubles, quoi, hein. Oui, effectivement. Oui.
France,
oui, oui, effectivement. Oui. Donc, ça, c'est aussi une chose à laquelle on pense rarement, c'est à utiliser le silence. Et le silence, finalement, surtout dans un son concerté comme celui-là, prend une importance telle, puisque certains spectateurs se demandent s'il n'y a pas quelque chose qui marche pas. Donc, ça fait son effet. Bon, on peut aller rapidement là, parce que ça sonne des cloches qui n'est pas très intéressante. pour la première fois l'ancrage dans l'image de ce bruit, ce son thématique qu'on a déjà entendu plusieurs fois au début. Là, voyez-vous aussi, on reprend le thème de la rivière, mais qui est lancé par... on a eu, donc, je récapitule, ces bruits de main dans l'eau qu'on a entendu, qui faisaient donc référence au début à cette scène-là, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le ludisme de ces jeunes femmes. Il s'ancre là à l'image, puisque donc le son devient synchrone avec les gestes, et il déclenche le bruit de la rivière, comme je vais vous le faire entendre maintenant.
N'est pas moi, n'est-ce pas, que vous attendiez.
Par rapport à l'Immortel, qui était le premier film de Romain.
Si, pourquoi pas.
C'est Maria qui vous a donné rendez-vous ici.
Et c'est vous qui êtes venu. Je le savais.
Vous lui avez dit des choses ignobles sur mon frère.
Pardonnez-moi. Je voulais vous parler à vous seul. C'était le plus sûr moyen de vous faire venir.
Vous n'avez pas le droit de toucher à Jean. Quel besoin avez-vous de le salir?
Oui, vous avez raison. Je suis un homme fini. Voilà ce que je voulais vous dire.
Fini.
Voilà. Alors, là, la même chose, cette rivière qu'on a entendue de façon continue se ferme. En quelque sorte, par le bruit d'eau, au moment où il dit « je suis un homme fini », donc on n'entend plus la rivière. Et dans la dernière bobine, ça c'est une espèce de prémonition d'un dispositif qui sera utilisé à la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grande scène autour d'une rivière où la servante est en train de laver du linge. Et il fait tout son numéro en disant « j'ai été fusillé, j'ai mon marre pêché dans les cadavres, etc. Bon. » Et où ce bruit de rivière continue, s'interrompt brusquement, comme coupé au couteau, c'est-à-dire d'une façon tout à fait non réaliste, chaque fois qu'il fait allusion à sa mort, ou il fait semblant d'être mort. Et puis, quand il s'abat par terre, c'est le silence total, on n'entend plus le bruit de la rivière qui pourtant est à côté, bon, et on le réentend dès qu'il sort le flacon de mercurochrome pour se faire... Donc il y a tout un jeu comme ça de silence par rapport à un fond continu. Et c'est un petit peu le même... ce procédé-là qui est un peu annoncé dans ce type de plan qu'on vient de voir là.
Parce que personne ne croit plus à vos révélations sur mon frère?
Parce que personne ne peut croire à mes mensonges. Pas même moi. Surtout pas moi. Qui sait bien que le lâche et le traître, c'est moi, Varissa Boris.
C'est mort, d'ailleurs.
Laissez-moi vous raconter ma triste histoire.
Nous sommes en plein classicisme, là.
Vous seul pouvez m'entendre et me délivrer. Non, bien sûr, il n'y a pas de docteur Müller dans le pays. Müller, c'était le chef des gardes civiques. C'est lui que je suis allé prévenir de la cachette où était Jean. Je voulais me débarrasser de lui. Sans raison, c'était le chef, cela m'était insupportable. Vous voyez, je ne cherche pas de justification. Mais il était plus malin que moi. Il avait lu la trahison sur ma figure.
Voilà, M. le maudit.
Sa blessure, ce devait être une feinte. Quand les gardes sont arrivés dans la cabane, Jean n'y était plus. Dieu soit loué. Il aurait pu me descendre tout de suite quand il a compris ce que j'allais faire. Mais Jean est trop honnête, lui, pour condamner quelqu'un sur des soupçons, sans jugement. Il a voulu être sûr. Et maintenant, je sais qu'il me cherche. C'est pour ça qu'il ne rentre pas encore. Il s'est juré d'exécuter d'abord tous les traîtres. Il a retrouvé ma trace. Il me poursuit de village en village. Tous les soirs, je change de lit. Je n'ai plus comme refuge aujourd'hui que sa propre maison. Mais là aussi, il va me découvrir. Je l'entends déjà qui se rapproche. Et du plus loin qu'il me verra, il me tuera. Comme un chien.
Bon, donc là, dans cette scène du jugement, on voit de nouveau ancré à l'image ce bruit dont je vous avais parlé au début en disant c'est l'armement des fusils des fusilleurs. C'était prémonitoire au début, ça arrive à cette scène-là, et vous avez peut-être entendu en dessous une espèce de suintement, de goutte à goutte, de cette sorte un peu de grotte, de l'eau qui tombe dans une grotte résonante, et qui, lui, alors, est prémonitoire de ce son qui va être entendu effectivement dans la poursuite quand Trintignant poursuit Jean Robin et puis finalement le pousse dans le puits, dans cette espèce de grotte. Donc vous voyez, il y a une espèce de rappel comme ça, de ce qui était prévu, on le voit, et maintenant on prévoit ce qui va arriver par la suite. Alors, bien entendu, je ne prétends pas que tout ce travail se soit perceptible par le spectateur, mais pas plus que les formes musicales ne sont perceptibles au premier degré et qu'elles sont dégagées par l'analyse qu'on peut en faire. Mais une structure a forcément une action sur l'inconscient du spectateur. Et s'il y a quelque chose qui rentre dans l'inconscient du spectateur, c'est bien le son beaucoup plus que l'image. Et que donc, il y a forcément, et c'est dû au fait que finalement le matériau sonore est très réduit, il y a forcément une espèce de mémorisation qui se fait et quelque chose peut-être d'indéfinissable, mais qui permet au spectateur de relier des choses inconsciemment qui ne sont pas évidentes dans le film. Enfin, moi, c'est mon opinion. Non.
Enfin, à moins d'avoir l'habitude, peut-être aussi, de ce genre de cinéma, c'est quand même très, très...
Non, mais je pense que ça joue d'une façon tout à fait inconsciente.
Oui.
Naturellement, vous ne pouvez pas tenir le discours que je tiens quand vous avez vu le film une fois, c'est absolument impossible. Hein, ça, bon, et ça n'aurait d'ailleurs pas d'intérêt, puisqu'au fond, là, c'est un objet démonstratif pour vous montrer comment ça marche, quoi. Effectivement, bon, mais ça n'a pas plus d'intérêt que de numéroter les séries dans la suite lyrique, je veux dire. Hein. Ce qui, je crois, est important, c'est que des structures très fortes finissent par inconsciemment agir sur l'organisation de l'écoute du spectateur. Hein. C'est ce qui différencie pour moi les musiques bien composées des musiques mal composées. C'est qu'une musique bien composée est quelque chose qui, même si on ne peut pas dire il y a ceci là, il y a ceci là, qui fait que ça organise un discours. Et qu'est-ce que c'est qu'organiser un discours? C'est tout de même placer un certain nombre d'éléments qui vont se répondre, qui vont se développer, qui vont se varier et qu'on va reconnaître, dont on va être privé, frustré, qui vont revenir, etc. Vous voyez? Donc je pense que c'est la même chose pour le film, c'est pareil. Et vous verrez demain dans le film de Godard, on se retrouve devant les... Finalement, bien que c'est un film qui soit complètement à l'opposé de celui-là, devant le même principe, c'est-à-dire grande économie de matériaux très réduits, et qui finit par agir vraiment sur l'inconscient. Naturellement. Tout à fait. La durée est tellement essentielle à ce genre de travail qu'il est inapplicable, par exemple, à un film de courte durée. Dans un film d'un court-métrage de 10 minutes, a fortiori de 5 minutes comme ils sont maintenant, c'est impossible de réaliser. Il faut travailler autrement, quoi, je veux dire. Mais on a effectivement, comme vous dites, besoin de la durée, au même titre qu'on ne verrait pas un Landant de Mahler qui durerait 3 minutes. La durée permettant la répétition, oui, absolument, oui, bien sûr. La répétition ou l'absence de répétition, et donc la frustration, et donc le plaisir de l'objet retrouvé, etc.
Vous êtes fou.
Vous avez entendu ce bruit?
Quel bruit? Il n'y a pas eu de bruit.
Le bruit d'un homme qui court dans la forêt.
Bon, vous pourriez aller plus loin en vitesse rapide. Là, on peut passer, il n'y a pas eu autre chose.
Alors, Maria, dites-nous qui il est. Qu'est-ce qu'il fait là?
Je ne sais pas qui c'est, monsieur.
Cette fille se moque de vous.
Taisez-vous, Franz. Il y a des choses qui ne sont pas nos affaires.
Qu'est-ce qui est vos affaires, alors? Il faudrait nettoyer cette chambre à fond.
Bien. Qu'est-ce que ça vous évoque ce traitement sonore? Pardon? Un dessin animé. Bon. Je parle surtout à partir du moment où le cauchemar est terminé et où il se réveille. Il y a d'abord un... Pardon? Pas quelqu'un à parler, mais je ne sais pas qui c'est. Ah bon. Oui. Sorte de réverbération. Oui. Mais il y a la scène s'ouvre, si on peut dire, parce que tout est en tuilée. Enfin, il y a tout de même une espèce de petit début. Hein. Oui, mais il y a un bruit significatif. Oui, effectivement, c'est au moment où elle se lève du lit. Et d'ailleurs, ça accompagne sa sortie. Alors, je vais tout de même vous le... Oui, non, mais je vais vous faire signe au moment dont je parle. Il y a un moment donné où il est dans le cauchemar. Hein. Voilà, c'est toujours dans le cauchemar. Bonjour.
Alors, Maria, dites-nous qui il est et ce qu'il fait là.
Je ne sais pas qui c'est, monsieur.
Cette fille se moque de vous.
Taisez-vous, Franz. Il y a des choses qui ne sont pas nos affaires.
Hein. Qu'est-ce qui est vos affaires, alors ?
C'est réverbéré. Oui, c'est tout, oui.
Là aussi. Il faudrait nettoyer cette chambre.
Il y a, indépendamment du texte que disent les personnages, hein, bon, il y a une chose à retenir, c'est qu'effectivement, ce texte est réverbéré, et donc plus ou moins long, plus ou moins lointain. Hein, et quelqu'un a dit qu'il y avait à juste titre des tous. Et puis il y a ce bruit bizarre au début quand elle se lève. Non, mais ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une volonté de sens là qui ne semble pas évidente. Hein. Ah oui, oui. Ah. Oui. Ah, nous y arrivons. Oui. Bon, alors, la répétition, on y est presque. Bon, il y a... Vous savez qu'à un moment donné, dans le film, il dit, tout à fait à la fin, je suis comédien, je joue un rôle, etc. Bon. Et nous avons eu également, dans un autre moment du film, quand il raconte l'histoire du billet caché dans une pomme, etc., et la petite servante applaudit et il salue, comme ça. Bon. Et en fait, c'est traité comme une scène de théâtre. Et ce que vous entendez comme bruit de moteur, c'est le rideau qui se lève, qui fait ce bruit-là. Ah, c'est un vrai rideau. C'est un vrai rideau, hein. Ça, je vous garantis. Hein.
On sait bien qu'on fait des vrais bruits avec des vrais objets.
Oui, mais on fait aussi des vrais bruits avec des vrais objets.
Hein.
Et alors, c'est les spectateurs qui rigolent. Oui, et c'est pour ça que les voix sont comme ça, un peu réverbérés, un peu comme si... C'est pour ça que le mot de répétition me paraît en effet quasiment juste, qui est toute cette espèce de notion de théâtre, qui a un petit peu de théâtre dans le film, que j'ai d'ailleurs très accentué, parce que Rob Grier ne l'avait vu qu'au niveau de l'image, quand il salue, quand il dit « je suis comédien, je joue un rôle », etc., et que j'ai très accentué là. Alors maintenant que vous savez ça, oui, exactement, et dans une scène que nous avons passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il est dans un grand jardin, et puis le son se précipite, et puis il y a la servante qui est sur un lit, et il lui donne des gifles, et on entend des trois coups, qui sont des maillotches sur... table d'harmonie de piano, de plus en plus fort, comme trois coups de théâtre, justement. Tac, tac, tac. Bon, qui sont déjà une amorce de cette chose-là. Cela dit, étant donné qu'une seule personne très futée a trouvé ça, je pense que d'une manière générale, ça fonctionne pas forcément bien. Maintenant que vous le savez, vous allez voir si c'est vraisemblable. Oui ? Oui.
Alors, est-ce que c'est plus de la perception
ou est-ce qu'il y a une intention ? Non, c'est dans le but, effectivement, de ne jamais s'habituer à un dispositif. Hein, c'est, disons plus grossièrement, c'est dans le but de déranger, pour pas s'installer dans un système. Hein. Et effectivement, quand on n'entend plus le bruit, on est on dit, tiens, il y a comme un défaut. Oui.
Rappelle ce que Trintignant dit dans la scène des draps, des bandages. Bon, ça y est, j'ai trouvé avec une telle pensée, quelqu'un qui a fait des copies de gens. On s'en servait, mais c'était une prêtresse.
L'allusion au film précédent. Oui. C'est ça, oui. Oui.
Comme lui est encore à moitié dans le lit, dans son rêve, etc., et qu'on ne voit pas encore.
Oui. Oui, on pourrait croire que c'est là. Oui, c'est tout à fait possible, effectivement, oui. Comme quelque chose qui vient d'ailleurs.
Là, on recherche constamment une logique.
Oui, non. Si, c'est la logique de la sensibilité. Hein, c'est pas une logique de récit, c'est une logique de perception. Elle est peut-être même plus importante, celle-là. Alors, maintenant que vous savez tout. Ah non, pardon, je voulais absolument avoir le début du rideau parce que ce rideau tout de même ça m'ennuie bien que vous ne l'ayez pas reconnu. Je l'aime tellement ce rideau. Ah si, ça fait vraiment. Bon, on écoute.
Dites-nous qui il est. Qu'est-ce qu'il fait là?
Je ne sais pas qui c'est, monsieur.
Cette fille se moque de vous.
Taisez-vous, Franz. Il y a des choses qui ne sont pas nos affaires.
Qu'est-ce qui est vos affaires, alors? Il faudrait nettoyer cette chambre à fond. Il y a de la vermine jusque dans la paillasse.
Expliquez-vous, monsieur.
Je me présente, Boris Varissa.
Je n'ai pas l'honneur de connaître.
Je viens de la part de votre fils.
De la part de mon fils, dans le lit de ma servante. Alors, qui est-il ?
Je ne sais pas, monsieur.
On voit des gens maintenant. Jusque chez soi, on ne sait pas d'où ils sortent.
Je vais vous raconter mon histoire.
Est-ce bien utile ?
Oui, ça se resserre.
Voici, j'ai connu Jean dans la clandestinité.
Où est-il à présent ? Que fait-il ? Quand va-t-il revenir ?
Écoutez, ce n'est pas si simple, je ne peux pas tout vous dire tout de suite.
Alors, que faites-vous ici ? Vous avez un message à remettre ?
Un message ? Laissez-moi vous raconter mon histoire.
Non. Partez maintenant. Vite ! Allez-vous-en.
Il va falloir aérer.
Voilà. Alors là, je crois que... Écoutez, de toute façon, hein, c'est ceux qui perçoivent qui ont raison. Hein. Non, non, absolument. C'est une espèce d'ampoule à l'intérieur du film et qui est vraiment une scène de comédie. Alors, je vois maintenant ce que vous identifiez comme une variation sur la... Le cimetière, là. Eh bien, l'ambiance, vous savez, c'est très difficile de... En tous les cas, ça l'était à l'époque, je ne sais plus maintenant, d'aller dans un théâtre et d'enregistrer, pour des problèmes de droits d'auteur, de choses comme ça, d'enregistrer une ambiance sale pendant un spectacle, et dont j'avais besoin pour réaliser ce morceau. Et finalement, j'avais un ami qui était régisseur au Théâtre de l'Odéon, et qui m'a dit, je vais t'arranger ça, on va placer un micro, etc., ni vu ni connu, je t'embrouille, bon. Et il a pu le faire qu'un seul soir, et il se trouve que on jouait 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello, qui commence par la femme qui est en train de faire une omelette dans un bol en bois, hein, bon. Mais je retiens votre suggestion, je la mettrai dans mes notes désormais, parce qu'effectivement, c'est une assimilation. Vous voyez, c'est ça, les structures riches. C'est que finalement, vous l'avez entendu comme une variation de ça. Bon, ça ne l'est pas du tout au départ, mais c'est très bien de le ressentir comme ça. Hein. Oui. Ah, c'est beaucoup plus lent, oui.
C'est vrai que, de toute façon, ce même à la tête, je n'aurais jamais pu savoir ce que c'était.
Oui. Ça se comprend a posteriori, ce qui est très bien, hein, je veux dire, on n'a pas besoin de comprendre tout de suite, du moment qu'on récupère le... D'autant qu'il y a ces applaudissements de public,